Les Mille et Une Bulles. Chaque semaine, un entretien avec un auteur BD. Une émission présentée et animée par Chris Arnal.
Bonjour et bienvenue à tous et à toutes pour la sixième édition des Mille et Une Bulles. Cette fois, nous accueillons un auteur qui est de Figeac, comme notre radio. C'est donc le local de l'étape, car il vit à Figeac depuis toujours et il y est né le 4 novembre 1965. Donc nous accueillons aujourd'hui Jean-Christophe Verne. Jean-Christophe, bonjour, comment vas-tu ?
Bonjour Chris, ça va super bien.
Impeccable. Donc écoute, je suis ravi de te recevoir dans les locaux de la radio. Donc on va commencer de suite par ton enfance en fait. Donc dis-nous, quels sont les BD qui ont bercé ton enfance et surtout, est-ce que c'est à ce moment-là que tu as rêvé de faire de la BD ou c'est venu plus tard ?
Ben, la BD, c'est vraiment la franco-belge, hein. J'ai grandi avec ça. Je me souviens d'un souvenir très particulier quand je ne savais pas encore lire. Et tous les soirs, ma maman me lisait Astérix chez les Bretons. Voilà, donc c'était devenu une habitude tous les soirs. Ce qui m'a poussé d'ailleurs à apprendre à lire plutôt que les autres, exprès pour lire des BD. Et donc, voilà, j'ai grandi comme ça avec les BD franco-belges. Et puis plus tard, pour l'anniversaire ou pour le Noël, on avait un Tintin, moi et mes sœurs. On en avait un chacun, ce qui fait que j'ai grandi autour de ces univers-là de bande dessinée.
Je pense qu'on a été tous pareils. Moi, j'hésite pas à dire que j'ai appris à lire, en fait, avec Astérix et Obélix.
Ben, vive Astérix, ouais, et Obélix.
Parce qu'on a tous été briefés pareil. Donc, du coup, je voulais parler de ton parcours. Tu as étudié l'histoire de l'art. Raconte-nous cette période, s'il te plaît.
Ah ben, l'histoire de l'art, c'est ma période toulousaine, hein, après 1983, quand j'ai eu le bac. Je suis parti à Toulouse apprendre l'histoire de l'art. J'ai pas pu aller dans une école de dessin. C'était un peu compliqué à l'époque. Et donc, je me suis rabattu sur l'histoire de l'art. Voilà. On a prévenu l'art. Et puis, j'ai couplé ça avec des études d'histoire. Voilà, tout simplement.
Et donc, ensuite, quand il a fallu que tu rentres au niveau professionnel, tu as commencé au début par être peintre-décorateur.
Peintre-décorateur, voilà. Donc je dessinais un petit peu, je peignais un petit peu. Et puis à l'époque, on peignait tout ce qui était lettres, que ce soit sur les boutiques, les véhicules. On peignait ça à la main encore, maintenant tout ça c'est terminé. Et donc je me suis lancé là-dedans. Donc chaque fois qu'il y avait un store de magasin ou une camionnette à peindre, eh ben, je les peignais. Voilà. Donc je me suis installé en 1987 comme... peintre en lettres exactement et décorateur.
Et ensuite, il y a eu une période, je sais, où tu as travaillé chez un maître verrier. Ça, c'est beau, la verrerie. J'ai toujours apprécié ce talent, en fait.
Oui, j'ai travaillé pendant quelques années, plus de 10 ans, chez un maître verrier, à qui je vais rendre un petit peu hommage, puisqu'il est malheureusement décédé vendredi et son enterrement était aujourd'hui. Donc, c'était. C'était monsieur Pierre Lebray qui était maître verrier et donc j'ai travaillé chez lui et je faisais toutes les parties peinture qui ensuite étaient cuites au four et lui découpait les carreaux et montait les vitraux. Donc on a refait beaucoup de vitrail qui étaient cassés dans les églises et on a travaillé aussi pour les particuliers, voilà.
Ça reste une belle expérience, un bon souvenir.
Super expérience, puisque de mon côté, je travaille beaucoup avec la transparence, à savoir l'aquarelle, et donc le vitrail, c'est la transparence aussi. Et donc ça, c'est un souvenir, et ça a été assez compliqué pour moi d'arrêter cette expérience, d'ailleurs.
Voilà. Et donc du coup, maintenant nous allons rebondir au niveau de tes débuts dans la BD. Si je me rappelle bien, ton tout premier album, c'était en 2001, c'était Le Fils d'Aliénor, c'est ça ?
Oui, Le Fils d'Aliénor, c'est l'histoire de Richard Cœur de Lion, un album que j'ai terminé en fait. C'est un éditeur qui avait cet album sous les bras. Et bon, là, il y a une fille qui l'avait commencé, qui ne l'avait pas terminé. Et puis, bon, de fil en aiguille, j'ai rencontré cette personne qui m'a proposé de finir l'album pour qu'il puisse sortir. Voilà, donc j'étais super content parce que quelqu'un me confie un travail et j'ai démarré comme ça, voilà.
Ça t'a mis en fait le pied à l'étrier dans le monde des bulles en fait.
Ben, ça m'a mis le pied à l'étrier dans le monde de la BD, ce qui m'a permis déjà d'aller dédicacer à droite à gauche et puis de rencontrer surtout des professionnels, des personnes que je lisais depuis très longtemps. Et la personne qui m'a vraiment aidé sur ce projet, qui m'a un petit peu, qui a aidé l'éditeur, qui a poussé l'éditeur un petit peu à me prendre, c'est François Dermot qui dessinait les chemins de Malfos, qui nous a quittés il y a 2 ans. Et voilà, donc lui rendre hommage aujourd'hui.
D'ailleurs, je bascule, tu parles de François Darmon qui, bon, malheureusement, nous a quittés. Je rebondis dessus parce que je sais aussi, alors je ne sais plus le nom de l'album, désolé, mais tu avais aussi collaboré avec son acolyte Bardet.
Oui, Daniel Bardet, voilà. Qui lui aussi est parti, voilà, et qui m'avait proposé de travailler sur Bossuet, L'Aigle de Meaux. J'ai du mal avec le temps, mais il me semble que ça fait 18 ans.
Ça passe vraiment vite. Et du coup, alors une série que je trouve, enfin, moi, personnellement marquante chez toi, parce que j'ai beaucoup apprécié, enfin, mes enfants surtout, c'est ta série Chris et Sophie. C'était donc une demande du Conseil Général du Lot, c'est cela. Comment t'as proposé ce projet à l'époque ?
Oui, c'était le contrat Rivière Scellée, qui était chargé de travailler et d'agrémenter, de nettoyer la rivière, hein, le Scellée, qui, par le biais de son ancien président, Arnaud David, m'avait proposé de faire une BD là-dessus. Super, on a travaillé sur le concept, sur l'idée, et puis il y a trois volumes qui sont sortis. Voilà, c'était autour de la rivière Scellée, mais c'était le but de travailler sur les espèces vivantes à l'intérieur de la rivière, à l'extérieur aussi, sur le patrimoine, sur les risques d'inondation, enfin sur tout ce qui concernait l'eau, dans un but pédagogique, quoi.
Il y avait un but écologique, en fait.
Un but écologique, voilà. Et il y avait plein de choses. Au début, c'était le démarrage des roseaux pour filtrer l'eau. Il y avait plein de choses. Il y avait les passes à poissons, il y avait les moulins. Il y avait... Voilà, on s'est bien amusé. Je me souviens m'être bien amusé à faire ça, quoi.
Et donc, ces trois tomes, c'était sûr, dès le début, il n'y aura pas de suite, quoi. C'était trois tomes et puis c'est tout.
Eh bien, il n'y aura pas de suite. Alors, ça fait quand même un petit moment que je voudrais déjà, pour commencer, le ressortir, cet album, le réactualiser un petit peu, parce qu'au bout de 15 ans, il y a plein de choses qui ont changé. Et puis, le problème, c'est le temps. Hein. Quand on fait de la BD,
pour un dessinateur, c'est ça, c'est le temps.
C'est le temps. On met à peu près un an pour faire un album. Et puis voilà, donc il faut calculer un petit peu selon ce que l'on veut faire, il faut mettre des choses en attente. Mais c'est vrai que les projets, il y a des choix à faire.
On dit justement, voilà, le temps, et j'enchaîne du coup sur une autre de tes séries phares pour moi, qui te prend sûrement beaucoup de temps, parce que tu as déjà sorti 4 tomes de la série 1944. Qui nous parle donc de la résistance, et je sais, alors raconte-nous, parce que je sais d'où te vient cette passion pour la résistance. C'est dû à un film, à une époque.
Alors, j'ai toujours été passionné et attiré par cette période de la résistance dans le sud-ouest. Et c'est oui, quand j'étais petit, je vois à quelle anecdote tu fais allusion. J'ai assisté au tournage du film La Combe Lucien, film de Louis Malle, qui s'est tourné à Figeac, en 1973. Ouais. J'avais 8 ans à l'époque. Et voilà, j'ai démarré un petit peu comme ça et je me suis passionné pour cette période-là. Depuis très très longtemps, période de la Seconde Guerre mondiale et de la résistance plus particulièrement. Et puis j'ai fini il y a 8 ans par franchir le pas, sortir le premier album 1944 Louise, qui retraçait l'aventure de deux personnages autour de la résistance, mais résistance chez nous dans le sud-ouest.
Oui.
Voilà, dans la région.
C'était Pierrot et Louise, tes deux héros.
Pierrot et Louise, et puis de fil en aiguille, j'avais prévu de faire un album, et puis j'en ai fait un second, et puis je viens de finir le tome 5. Donc.
Et d'ailleurs, je crois que c'est à ce moment-là que tu as décidé de te voler de tes propres ailes en montant ta propre structure d'édition, c'est ça ? Alors, par JCV, c'est ça ?
Oui, alors je travaille à la fois pour des éditeurs et j'ai aussi monté ma petite maison d'édition. Comme ça, je peux me lancer dans ce projet-là et rester le seul maître à bord. Voilà. Ah, et honnêtement, sans regret, je suis très heureux de travailler. J'ai des albums chez Glénat, un petit peu ailleurs aussi. Mais là, disons que voilà, c'est un petit peu mon bébé. C'est moi qui gère à la fois les projets, les financements, et les sorties, les ventes, les retours, etc.
En plus, à l'époque, tu avais lancé sur le réseau ce qu'on appelle un Ulule, une plateforme pour réunir des fonds, quoi, pour pouvoir publier. Et en fait, à chaque fois, tu as eu un bon écho de tes lecteurs et ça a réussi à sortir à chaque fois, quoi.
Oui, j'ai fait des systèmes participatifs, le crowdfunding. Et ça c'est assez intéressant puisque, bon, déjà, on n'a pas à aller voir le banquier pour lui demander un financement, ce qui serait, à mon avis, très aléatoire. Donc, chaque personne qui finance l'album en avance permet de voir venir le projet et ils ont la BD en retour, dédicacée bien sûr avec des petits cadeaux, des petits ex-libris, des petits dessins, tout un tas de petites choses. Et ce qui fait qu'au niveau, écologique, tu parlais d'écologie tout à l'heure, ça évite aussi les pilons, puisque à la limite, quand la BD sort, elle est déjà vendue, elle est déjà amortie et financée. Voilà. Donc ça, il y a un petit côté aussi intéressant.
Et du coup, donc, alors ça, tu as fait il n'y a pas longtemps du coup un concert dessiné sur ta BD sur l'aventure Pigoué. Raconte-nous en fait d'où est venu ce projet. C'est une association que je crois qui t'a contacté pour faire cette BD.
Alors, c'est l'association Rouergue Pigoué qui s'occupe de remettre en mémoire les Aveyronnais qui sont partis en 1884 fonder la ville de Pigoué en Argentine, ville qui existe toujours. Voilà, de là en est partie une BD qui est sortie, qui a pas mal marché puisqu'elle a déjà été rééditée l'an dernier à la période de Noël. Et samedi dernier, eh bien, il y avait une soirée argentine autour de ce thème-là. Il y avait Sylvie Pulès qui... accordéoniste de renom qui jouait ce soir-là, et les gens venaient danser, et puis moi, j'étais chargé de peindre les réactions des gens à l'aquarelle.
Ça fait bien de ce genre de situation, en fait, de dessiner en musique, en fait. Je sais pas comment t'appréhendes ça, en fait.
Et ben, voilà, on réagit, on se met un petit peu en danger, entre guillemets, toute proportion gardée, hein, on arrive et puis on réagit en fonction des gens. Donc j'ai dessiné les musiciens, les ambiances, voilà, et puis les danseurs, hein, même si parfois ça va un petit peu vite pour l'aquarelliste, mais voilà, c'est le principe de travailler sur fond musical, voilà.
Alors, comme tu as un côté, on va dire oui, un côté généreux comme tout artiste, tu as décidé de faire partager ton talent. Tu nous fais des ateliers de dessin. Parlons-nous de ces ateliers de dessin, s'il te plaît.
Ateliers de dessin, eh ben, j'ai des ateliers de dessin maintenant depuis 35 ans sur Figeac, où j'enseigne le dessin, donc peinture à l'huile, aquarelle. Et parallèlement, alors avec les adultes et les ados, et parallèlement le mercredi après-midi, j'ai mon atelier BD, alors là c'est consacré à la BD, mais cet atelier est un petit peu particulier, j'y mets tout le monde, c'est-à-dire qu'il y a des enfants qui sont petits, il y a des ados, mais il y a aussi des adultes, c'est-à-dire que tout le monde travaille autour d'une grande table, et il n'y a pas d'âge en fait, chacun travaille sur fond de BD. Ça fait maintenant 10-12 ans que j'ai cet atelier. Ça se passe super bien. Il sort de très très belles choses, quoi.
Ah, c'est pour ça que je voulais t'en parler. Parce que, bon, bien sûr, j'étais au courant parce qu'on se connaît.
Oui.
Et, alors, le temps passe trop vite avec toi, Jean-Christophe. Je suis désolé. Donc, nous allons bientôt clôturer la première partie de l'émission. Et la dernière rubrique, c'est... Parce que, bon, tu dessines, peinture, aquarelle et tout. Mais à part ça, Jean-Christophe, qu'est-ce qu'il fait? Il y a quoi, à part la BD, dans ta vie? Est-ce qu'il y a du sport, est-ce que tu as le temps de faire autre chose, en fait?
Du sport, je marche, mais...
Pour moi, c'est du sport. Hein.
J'ai un certain âge et je ne peux plus faire trop de sport. Avant, je courais, mais maintenant, je marche, je prends l'air. J'ai malheureusement pas trop de temps à consacrer. J'ai fait pas mal de musique. Voilà, je me suis mis au piano pendant le Covid pour me détendre. Mais voilà, j'ai le dessin qui prend quand même une grosse partie de la semaine.
Hein. Je pense, oui. C'est 100% BD et cela ne m'étonne pas. Nous avons fait une petite pause avec un morceau choisi par toi, Jean-Christophe. C'est donc Gaëtan Roussel avec Help Myself. On se retrouve après, merci.
Présence à Figeac 97.7.
échapper. De s'arrêter si l'on nageait sans respirer, rond de l'air cet été, tout le monde cherche à s'échapper.
Et nous voilà de retour, donc toujours avec Jean-Christophe Vergne pour la sixième émission des Mille Bulles que je lui consacre. Donc Jean-Christophe, maintenant nous allons passer à la petite partie amusante. Donc un petit quiz sur tes connaissances en BD, dont tu m'avais donné quelques auteurs que tu appréciais. Tu ne sais toujours pas quel auteur je vais te dire, donc je te le dis maintenant, c'est Hergé.
Ah, voilà. D'accord.
Donc tu as six petites questions, rien de vilain, t'inquiète pas. Donc première question Jean-Christophe, est-ce que tu sais quel est le titre du premier album de Tintin qui a été publié ?
Alors publié, oui, c'est Tintin chez les Soviets.
Bien, voilà. Je tente la date ou ?
Alors il me semble que c'est 1929.
Bien, ah mais très très bien, parce que des fois je colle, mais moi je fais le malin, mais moi j'ai Google, donc c'est pas rare, avec Google on y arrive. Moi j'aime bien RG, mais je suis pas calé dessus, j'avoue. Deuxième question, est-ce que tu connais comment s'appelle l'album inachevé de Tintin, qui n'est malheureusement jamais sorti et qui a été publié après à titre posthume?
Alors c'est le dernier, c'est Tintin et l'Alfart, voilà. Où il y avait, je crois, 2-3 planches crayonnées, le reste était vraiment limite.
Et oui, malheureusement, Hergé est décédé entre temps.
Et il est décédé.
Et j'ai noté la date, il est décédé en 83, sans le terminer malheureusement, mais il sortira quand même en 86.
Oui, d'ailleurs, voilà. C'est une série qui continue à se vendre alors qu'il n'y a pas de nouveauté depuis maintenant
mais,
40
alors,
ans.
Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de poser cette question, mais je me la pose maintenant. Uderzo a été repris. Toi, des grandes séries ont été reprises, même Lucky Luke.
Oui.
Et tu sais, est-ce que tu sais, toi, je ne sais pas, peut-être que tu n'as pas la réponse, que pourquoi Hergé, pourquoi Tintin, quelqu'un ne l'a pas repris?
Alors j'ai la réponse, c'est-à-dire que Hergé, de son vivant, a dit « je veux que Tintin meure avec moi », c'était sa décision. Parallèlement, Jacques Martin, qui faisait Alix, que j'ai rencontré, puisque j'ai travaillé 10 jours avec lui, m'a dit « moi, c'est différent, je veux que Alix me oui, survive, qu'il y ait d'autres dessinateurs qui le... » Donc voilà, c'était la volonté de Hergé. Bon, et donc,
c'est très bien sa volonté, mais c'est vrai que quand on voit bon, là, Uderzo, et d'ailleurs le prochain album sera la semaine prochaine, Uderzo revit encore, et moi j'avoue que je suis fan d'Uderzo, donc ça me plaît. Donc c'est vrai que il a eu raison de le faire, hein, mais c'est vrai que c'est dommage. Je trouve pour les amateurs d'Hergé, c'est dommage qu'il n'y ait pas eu une...
Oui, encore faut-il pouvoir succéder à l'auteur, hein, c'est pas évident.
Ça, c'est pas évident de passer derrière.
Pareil pour ouais. Uderzo et
j'avoue
pour,
que ça doit pas être évident.
Et pour Tintin.
Troisième petite question, oui. De quel château de la Loire celui de Moulinsart, donc, dans Tintin, s'inspire-t-il? Est-ce que tu sais lequel c'est, château?
Alors, je ne me rappelle pas du tout.
Donc, je vais faire le malin, c'est le château de Cheverny.
De Cheverny.
Il s'est inspiré de ce château-là, en fait.
D'accord.
Je ne le savais pas, moi, non plus. C'est bien. En fait, en faisant ces quiz, pour les auteurs, comme pour toi, là,
on
ça me permet,
choses,
en fait,
hein.
de... Après, dans des soirées, je pourrais faire mon malin et sortir les réponses. Donc, quatrième question, est-ce que tu connais le nombre d'albums de Tintin qui sont parus?
Le nombre d'albums, alors je ne sais pas exactement.
Allez, à un prix,
là,
on va supposer.
Il y en a une vingtaine, il me semble.
T'es pas loin, 24.
Ouais, 24, voilà.
Mais toi, moi je pensais plus. Enfin, il n'en avait pas fait une cinquantaine non plus, mais
24,
je pensais qu'il en avait fait une trentaine, en fait.
Ouais.
Ensuite, alors, on peut le dire à l'antenne, Armand, hein. Quel est le juron favori du capitaine Haddock?
Ben, 1000 sabords.
Voilà, 1000 millions de 1000 sabords.
1000 millions de 1000
voilà.
Sabords.
Ça, j'adorais cette expression. Et la dernière question, alors, je l'ai découvert aussi. Donc, l'album Autocar, le sceptre d'Autocar, pardon.
Oui.
Une planche a été vendue à un prix record il y a quelques années, je ne sais pas quand c'était. Est-ce que tu sais à combien elle a été vendue?
Alors, je ne sais pas si c'est celle-là. Moi, je sais qu'il y avait la page de garde des albums, les anciens albums de Tintin qui étaient vendus plus d'un million d'euros. Donc, on tourne autour de ces tarifs-là, quoi. Ça atteint des sommets.
Parce que moi, j'avoue. Enfin, je sais que dans les BD, on peut y avoir des ventes records. Et là, il y a quand même, cette vente a été de 1,5 million d'euros.
Voilà, tu vois, c'est ce que je te disais.
C'est sûr, c'est du RG, mais...
Ben, c'est sûr, c'est du RG. Si tu veux, en fait, qu'est-ce qui se passe dans le milieu de l'art? Le milieu de l'art s'est un petit peu cassé la figure ces dernières années. Les planches originales de BD, les illustrations, se vendaient à des prix dérisoires. Il y a encore 30 ans, on achetait des planches pour 200-300 euros. Et maintenant, le milieu de l'art a trouvé là-dedans une nouvelle manne pour relancer l'art. Alors c'est comme toujours spéculation, machin, tout ce qu'on voudra.
Non, mais c'est vrai, c'est des chiffres.
Et du coup, maintenant, ça monte très très haut. Regarde les prix des dessins de Franquin ou de Uderzo, c'est pareil, ça monte très très vite.
Bon, après, c'est du grand RG. Alors, je n'avais pas cette question, mais je te l'ai annoncé, c'est la dernière, parce que je sais que malheureusement, on va devoir terminer. Est-ce que tu sais, à part RG, donc il a créé une autre série? Alors, j'ai du mal à prononcer le nom, donc j'espère que tu vas te rappeler. Est-ce que tu te rappelles les deux petits garnements, là?
Alors, il y a Quick et Fluke.
Merci. Voilà.
Et il a fait aussi Josette et Joko, deux petits garçons avec un petit singe qui est arrivé plein d'aventures. Voilà.
Voilà. Mais toi, tu t'es bien débrouillé.
Ah ben, merci.
Ouais, t'as dû sans faute. Donc, du coup, écoute, mon Jean-Christophe, on va devoir te laisser parce que, ben, voilà, comme je te dis, ça passe très très vite. Je te remercie d'être venu.
Ben, merci de m'avoir invité, en tout cas.
Et bien voilà, ça nous a vraiment fait plaisir. Donc, en sachant que ton émission sera diffusée le mardi soir à 20h30.
D'accord.
Comme toutes les émissions. En sachant qu'après, si vous voulez continuer à suivre un replay ou les podcasts directement sur le site de Radio Présence. Et donc, la prochaine émission des Mille et une Bulles que nous retrouverons, ce sera avec Philippe Fenech. C'est entre autres le papa des Cops, de Idéfix. Il a repris Astérix, donc on va beaucoup parler de Uderzo et d'Astérix la semaine prochaine. Merci à vous, mes chers auditeurs. Au revoir Jean-Christophe.
Au revoir Chris, et merci.
Avec plaisir, et rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.
Les Mille et une Bulles. Chaque semaine, un entretien avec un auteur BD. Une émission présentée et animée par Chris Arnal.